Chapitre 19. Question. Je t'ai rarement vu si indigné. Dieu ne s'indigne pas. Cela prouve que tu n'es pas Dieu. Réponse. Dieu est tout, et Dieu devient tout. Il n'y a rien que Dieu ne soit pas, et tout ce dont Dieu fait l'expérience de lui-même, Dieu en fait l'expérience en toi, en tant que toi, et à travers toi. C'est ton indignation que tu ressens à présent. Question. Tu as raison, car je suis d'accord avec tout ce que tu as dit. Réponse. Sache que chaque pensée que je t'envoie, tu la reçois à travers le filtre de ta propre expérience, de ta propre vérité, de ta propre compréhension et de tes propres décisions, choix et déclarations en ce qui concerne qui tu es et qui tu choisis d'être. Tu n'as aucune façon de la recevoir. Tu n'as pas à la recevoir autrement. Question. Alors c'est reparti. Es-tu en train de me dire qu'aucune de ces idées et de ces sentiments ne sont les tiens, que tout ce livre pourrait être faux? Es-tu en train de me dire que toute cette expérience de ma conversation avec toi n'est peut-être rien d'autre qu'une compilation de mes pensées et sentiments à propos d'une chose? Réponse. Envisage la possibilité que je sois en train de te donner tes pensées et sentiments sur quelque chose, d'où supposes-tu qu'ils viennent? Que je sois en train de co-créer tes expériences avec toi, que je fasse partie de tes décisions, choix et déclarations. Considère la possibilité que je t'ai choisi, en même temps que bien d'autres, pour être mon messager, longtemps avant que ce livre ne prenne forme. Question. J'ai de la difficulté à croire cela. Réponse. Oui, nous avons vu tout cela dans le tome 1. Mais je vais parler à ce monde, notamment à travers mes enseignants et mes messagers. Et dans ce livre, je vais dire à ton monde que ces systèmes économiques, politiques, sociaux et religieux sont primitifs. Je remarque que tu as l'arrogance collective de croire que ce sont les meilleurs. Je vois que la majorité d'entre vous résiste à tout changement ou à toute amélioration qui vous retire quoi que ce soit, même s'il peut aider quelqu'un. Je le redis, ce qu'il faut à ta planète, c'est un changement massif de conscience, un changement de votre conscience, un respect renouvelé pour toute la vie et une compréhension approfondie de l'interrelation de tout. Question. Eh bien, c'est toi, Dieu. Si tu n'aimes pas les choses comme elles sont, pourquoi ne les changes-tu pas? Réponse. Comme je te l'ai déjà expliqué, ma décision depuis le début a été de te donner la liberté de créer ta vie et par conséquent ton soi, comme tu l'entends. Tu ne peux connaître ton soi en tant que créateur si je te dis quoi créer, comment le créer, et si je t'oblige, te force ou te pousse ensuite à le faire. Si je faisais cela, mon dessein serait anéanti. Mais maintenant, remarquons seulement ce qui a été créé sur ta planète et voyons si ça ne t'indigne pas un peu. Regardons seulement quatre des pages intérieures de l'un de tes grands quotidiens, une journée typique. Prends le journal d'aujourd'hui. Question. D'accord. Nous sommes le samedi 9 avril 1994 et j'ai devant moi le San Francisco Chronicle. Réponse. Bien. Ouvre-le à n'importe quelle page. Question. Bien. Voici la page A7. Réponse. Très bien. Qu'est-ce que tu y vois? Réponse. Question. Le titre dit « Les pays en développement vont discuter des droits des travailleurs ». Réponse. Excellent. Continue. Question. L'article parle de ce qu'il appelle un vieux schisme entre pays industrialisés et pays en voie de développement à propos des droits des travailleurs. Les leaders de certains pays en développement craignent qu'une campagne en vue d'étendre les droits des travailleurs puisse provoquer une façon officieuse de tenir leurs produits fabriqués, à bas salaire, à l'écart des marchés de consommation des pays riches. On dit ensuite que les négociateurs du Brésil, de la Malaisie, de l'Inde, de Singapour et d'autres pays en développement ont refusé d'établir un comité permanent de l'Organisation mondiale du commerce qui pourrait être chargé d'élaborer une politique des droits des travailleurs. Réponse. De quel droit l'article parle-t-il? Question. Il parle des droits fondamentaux des travailleurs, tels que les interdictions sur le travail forcé, l'établissement de normes de sécurité au travail et une garantie de la chance de négocier collectivement. Réponse. Et pourquoi les pays en développement ne veulent-ils pas que ces droits fassent partie d'un accord international? Je vais te dire pourquoi. Mais d'abord, soyons clairs. Ce ne sont pas les travailleurs de ces pays qui résistent à ces droits. Ces « négociateurs » entre guillemets pour les pays en développement sont ceux-là même ou sont alliés de près avec ceux-là même qui possèdent et dirigent les usines, autrement dit les riches et les puissants. Comme au jour d'avant le mouvement syndical en Amérique, ce sont les gens qui, à présent, bénéficient de l'exploitation massive des travailleurs. Tu peux être certain qu'ils reçoivent en douce l'aide des milieux financiers des États-Unis et d'autres pays riches, où les industriels, qui ne peuvent plus exploiter injustement les travailleurs dans leur propre pays, font de la sous-traitance avec des propriétaires d'usines dans ces pays en développement, ou construisent leurs propres usines là-bas, afin d'exploiter les travailleurs étrangers qui n'ont encore aucune protection face à l'usage qu'en font les autres pour augmenter leurs profits déjà obscènes. Question. Mais l'article dit que c'est notre gouvernement, l'administration actuelle, qui appuie l'adoption des droits des travailleurs dans le cadre d'un accord commercial mondial. Réponse. Votre leader actuel, Bill Clinton, est un homme qui croit aux droits fondamentaux des travailleurs, même si vos puissants industriels n'y croient pas. Il lutte courageusement contre les intérêts acquis des milieux financiers. D'autres présidents américains et des leaders à travers le monde ont été tués pour moins que cela. Question. Es-tu en train de dire que le président Clinton va être assassiné? Réponse. Disons seulement que d'immenses pouvoirs tenteront de le faire destituer. Il faut qu'il le fasse sortir de là, tout comme il devait écarter John Kennedy il y a 30 ans. Comme Kennedy avant lui, Bill Clinton fait exactement tout ce que les milieux financiers détestent. Non seulement insiste-t-il pour faire valoir les droits des travailleurs à travers le monde, mais il se place du côté du petit peuple plutôt que de l'establishment à propos de presque toutes les questions sociales. Il croit que chaque personne a le droit, par exemple, d'avoir accès à des soins de santé adéquats, qu'elle puisse ou non se permettre de payer les prix et les frais exorbitants dont profite la communauté médicale américaine. Il a dit que ses coûts devaient baisser. Depuis, il n'est pas très apprécié d'une autre très large proportion des riches et des puissants de l'Amérique, des fabricants de produits manufacturiers aux conglomérats de l'assurance, des corporations médicales aux propriétaires de commerce ayant à fournir une couverture décente à leurs travailleurs. Un grand nombre de gens qui font à présent beaucoup d'argent vont devoir en faire un petit peu moins si on accorde les soins de santé universels aux pauvres de l'Amérique. Cela ne fait pas de M. Clinton l'homme le plus apprécié du pays. Du moins, pas auprès de certains éléments qui ont déjà prouvé en ce siècle qu'ils ont la capacité de faire destituer un président. Question. Es-tu en train de dire... Réponse. Je suis en train de dire que la lutte entre les nantis et les démunis se poursuit sans relâche et qu'elle est endémique sur votre planète. Il en sera toujours ainsi tant que les intérêts économiques, plutôt que les intérêts humanitaires, dirigeront le monde, aussi longtemps que le corps de l'homme, et non l'âme de l'homme, sera la préoccupation la plus élevée de l'homme. Question. Eh bien, j'imagine que tu as raison. À la page A14 du même journal, il y a un titre. « La récession provoque la colère en Allemagne ». Le sous-titre dit « Avec le taux de chômage le plus élevé depuis la guerre, l'écart s'élargit à nouveau entre les riches et les pauvres ». Réponse. Oui. Et que dit l'article ? Question. Il parle de grands troubles chez les ingénieurs, professeurs, scientifiques, employés d'usines, menuisiers et cuisiniers mis à pied au pays. Il dit que le pays a été frappé par des épreuves économiques et qu'il y a des sentiments répandus que ces difficultés n'ont pas été distribuées équitablement. Réponse. C'est vrai, elles ne l'ont pas été. L'article dit-il ce qui a provoqué autant de mises à pied ? Question. Oui. Il dit que les employés en colère sont des travailleurs dont les employeurs ont déménagé dans des pays où la main-d'œuvre est meilleur marché. Réponse. Ah ah ! Je me demande si un grand nombre des lecteurs du San Francisco Chronicle d'aujourd'hui ont vu le rapport entre les articles des pages A7 et A14. Question. L'article indique également que lorsque viennent les mises à pied, les travailleuses sont les premières à partir. Il dit que les femmes comptent pour plus de la moitié des chômeurs de tout le pays et presque les deux tiers dans l'Est. Réponse. Bien sûr. Alors je continue de souligner, même si la plupart d'entre vous ne voulez pas le voir ou l'admettre, que votre mécanisme socio-économique établit systématiquement une discrimination contre certaines classes de gens. Vous ne fournissez pas une chance égale malgré vos prétentions, mais vous avez besoin de croire votre fiction à propos de cela afin de continuer à vous sentir bien dans votre peau, et vous avez généralement du ressentiment envers quiconque vous montre la vérité. Vous nierez tous l'évidence, même si on vous la présente. Votre société est une société d'autruche. Eh bien, qu'y a-t-il d'autre dans le journal d'aujourd'hui ? Question. À la page A4, il y a un article qui annonce de nouvelles pressions du gouvernement fédéral pour mettre fin à un préjugé concernant l'habitation. Il dit les représentants du gouvernement fédéral concernant l'habitation sont en train d'établir un plan qui obligerait les efforts les plus sérieux jamais entrepris afin d'éliminer la discrimination raciale dans le domaine du logement. Réponse : ce que tu dois te demander, c'est pourquoi de tels efforts doivent-ils être obligatoires ? Question : nous avons une loi sur la justice dans le logement qui interdit de refuser des locataires en se fondant sur la race, la couleur, la religion, le sexe, l'origine nationale, l'incapacité physique ou la composition familiale. Mais nombre de communautés locales ont fait bien peu pour éliminer de tels préjugés. Bien des gens dans ce pays croient encore qu'une personne devrait être capable de faire ce qu'elle veut avec sa propriété privée, y compris la louer ou non à qui elle veut. Réponse : mais si on permettait à tous ceux qui possèdent une propriété à louer de faire de tels choix, et si ces choix avaient tendance à refléter une conscience de groupe et une attitude généralisée en faire certaines catégories et classes de gens, alors des segments entiers de la population pourraient perdre systématiquement toute chance de trouver des lieux d'habitation convenables et bon marché. Et faute de logements convenables et bon marché, les barons fonciers et les marchands de sommeil seraient capables d'exiger des prix exorbitants pour des logements affreux, ne fournissant que peu ou pas d'entretien. Et une fois de plus, les riches et les puissants exploitent les masses, cette fois sous l'appellation « droit sur la propriété ». Question : tout de même, les propriétaires doivent avoir certains droits. Réponse : mais quand les droits d'une minorité enfreignent-ils ceux du plus grand nombre ? C'est, et ça a toujours été, la question qu'affronte toute société civilisée. Vient-il un temps où le bien supérieur de tous prime sur les droits individuels ? La société a-t-elle une responsabilité envers elle-même ? Vos lois sur l'équité dans le logement sont votre façon de dire oui. Tous les échecs de ces démarches visant à suivre et à faire respecter ces lois, c'est une façon pour les riches et les puissants de dire « Non, tout ce qui compte, ce sont nos droits ». Une fois de plus, votre président actuel et son administration oblige à débattre de la question. Les présidents américains n'ont pas tous mis autant de volonté à s'opposer aux riches et aux puissants sur un front de plus. Question : je vois, l'article du journal dit que les représentants de l'administration Clinton concernant les questions de logement ont lancé plus d'enquêtes sur la discrimination dans le logement dans la courte période où ils ont été postés qu'on ne l'avait fait au cours des 10 dernières années. Un porte-parole de la Fair Harris Alliance, un groupe conseil national de Washington, dit que l'insistance de l'administration Clinton pour qu'on respecte les statuts sur l'équité en habitation était une chose qu'ils avaient essayé d'obtenir d'autres administrations pendant des années. Réponse : ainsi, ce président actuel se fait encore plus d'ennemis chez les riches et les puissants. Les fabricants et les industriels, les compagnies pharmaceutiques et les firmes d'assurance, les médecins, les conglomérats médicaux et les propriétaires investisseurs. Tous des gens ayant de l'argent et de l'influence. Comme on l'a observé plus tôt, attends-toi à ce que Clinton ait de la difficulté à rester en poste. Question : en ce moment même, en avril 1994, la pression monte contre lui. Réponse : ton journal du 9 avril 1994 te dit-il autre chose à propos de la race humaine ? Question : eh bien, revenons à la page A14. Il y a une photo d'un leader politique russe brandissant les poings. Sous la photo, il y a une dépêche intitulée « Jirinovski s'attaque à des collègues au Parlement ». L'article fait remarquer que Vladimir Jirinovski s'est lancé dans une autre bagarre au point hier, frappant un opposant politique et lui criant au visage, je cite, « Je te ferai pourrir en prison, je t'arracherai la barbe poil par poil ». Fin de citation. Réponse : et tu te demandes pourquoi des pays déclarent la guerre ? Voici un leader d'un mouvement politique de masse et qui, dans les couloirs du Parlement, doit prouver sa virilité en frappant ses opposants. Votre race est très primitive, et la force est tout ce que vous comprenez. Il n'y a pas de loi véritable sur votre planète. La loi véritable, c'est la loi naturelle, qui est inexplicable et qu'on n'a pas besoin d'expliquer ou d'enseigner. On peut l'observer. La loi véritable est celle sur laquelle les gens s'entendent librement pour être gouvernés parce qu'ils sont gouvernés par elle, naturellement. Par conséquent, leur accord n'est pas tant un accord qu'une reconnaissance mutuelle de ce qui est tel. Il n'est pas nécessaire de faire respecter ces lois. Elles sont déjà en application, par le simple expédient de la conséquence indéniable. Permets-moi de te donner un exemple. Des êtres hautement évolués ne se frappent pas sur la tête avec un marteau parce que cela fait mal. Pour la même raison, ils ne frappent personne sur la tête avec un marteau. Des êtres évolués ont remarqué que, si vous frappez quelqu'un d'autre avec un marteau, cette personne a mal. Si vous continuez de le faire, cette personne se met en colère. Si vous continuez de la mettre en colère, elle se trouve un marteau et finit par vous frapper. Les êtres évolués savent par conséquent que, si vous frappez quelqu'un d'autre avec un marteau, c'est vous-même que vous frappez avec ce marteau. Peu importe si vous avez plus de marteaux ou un plus gros marteau, tôt ou tard, vous allez vous faire mal. Ce résultat, on peut l'observer. Les êtres non évolués, des êtres primitifs, observent la même chose, sauf qu'ils s'en fichent. Les êtres évolués n'essaient pas de jouer à celui qui a le plus gros marteau l'emporte. Les êtres primitifs ne jouent à rien d'autre. Incidemment, c'est largement un jeu de mâle. Chez votre espèce, très peu de femmes veulent jouer aux marteaux qui font mal. Elles jouent un nouveau jeu. Elles disent « Si j'avais un marteau, je martèlerais la justice, je martèlerais la liberté, je martèlerais l'amour entre mes frères et mes sœurs, partout dans ce pays. » Chanson populaire.